VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique en RDC. Les choses s'accélèrent du côté de l'opposition congolaise. Ce jeudi, Moïse Katumbi et Étienne Tshisekedi ont annoncé leur accord pour l'élection présidentielle à venir. Les détails avec Nicolas Pinault.
Oui, c'est sur son compte Twitter que l'ancien gouverneur du Katanga a dévoilé une photo en compagnie d'Étienne Tshisekedi depuis Bruxelles, unis pour le bien de la RDC et l'avènement de la démocratie en cette année électorale, a déclaré M. Katumbi. Le leader de l'UDPS a donc reçu celui qui affirme toujours être candidat du G7 pour la prochaine présidentielle en RDC. Officiellement, il n'a pas été question de candidature entre les deux hommes qui ambitionnent toujours de succéder à Joseph Kabila, dont le mandat s'achève en décembre prochain et qui ne peut se représenter en vertu de la constitution actuelle. Plus tôt cette semaine, Moïse Katumbi avait annoncé son retour prochain en RDC en dépit des ennuis judiciaires auxquels il fait face depuis quelque temps. Inculpé pour recrutement de mercenaires, le milliardaire congolais a été autorisé à aller se faire soigner en Europe. Il a récemment été condamné à 3 ans de prison pour spoliation immobilière et à une amende $1 million.
Crise au Burundi, nouveau report du dialogue visant à mettre fin aux troubles dans le pays. Relancé en mai après plusieurs mois de blocage, les discussions reprendront mardi prochain à Arusha, en Tanzanie, au lieu de ce samedi. Et puis toujours concernant le Burundi, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York, accuse les agents du Service national de renseignement SNR, les services secrets, qui dépendent directement du président burundais Pierre Nkurunziza, de pratiquer la torture contre les opposants présumés. Génocide de 1994 au Rwanda, la justice française a condamné à la réclusion à perpétuité à Paris 2 anciens bourgmestres rwandais accusés d'avoir participé au massacre. Une sentence qui fait suite à de nombreuses condamnations prononcées dans le monde entier pour des faits liés à cette tragédie. Le rôle de la France a été très critiqué lors du génocide. Pour une réaction de Kigali, Eric Manira Kiza a joint dans la capitale rwandaise le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, le docteur Jean Damascène Bizimana.
C'est une réaction de joie et en même temps une réaction de justice parce que ces deux messieurs ont abusé de leurs fonctions. Ils étaient maires, c'est-à-dire qu'ils étaient bourgmestres. Ils étaient détenteurs d'autorité. Ils ont eu un rôle de participation et d'organisation des massacres et du génocide dans la commune qu'ils dirigeaient. Ils se sont attribués le rôle d'organisation des massacres et en même temps de fourniture d'armes et d'organisation des miliciens, puisqu'ils se sont aussi du Rwanda en espérant bénéficier d'un asile aisé et pacifique en France. Et il est très important qu'ils soient reconnus coupables d'organisation et de planification du génocide, même en dehors du Rwanda. Deuxième élément, c'est pour les victimes rescapées, ils attendaient que cette justice soit rendue. Donc c'est très important que ce procès soit fait, et d'autant plus que ça se fait dans un pays comme la France qui, dans les années passées, n'avait pas franchi ce pas de faire des procès, de parvenir aussi à des sanctions et à des jugements exemplaires, comme ce fut le cas.
Pour vous, est-ce un dossier qui ramène la confiance entre la justice rwandaise et la justice française?
C'est plutôt un procès qui concerne des individus qui sont reconnus coupables. Et nous souhaitons que, évidemment, la justice française poursuive ce pas. L'année dernière, au mois d'octobre, la BRC Saka a bénéficié d'un orgueil, alors que Saka, c'était le grand criminel que nous connaissons ici dans le pays, qui a un rôle dans le génocide, mais a collaboré avec l'ancien préfet de Kigali, le colonel Tarcisse Nzaro, dans la planification du génocide auprès de Sainte Famille et du centre pastoral Saint-Paul. Et il y avait des preuves évidentes que le tribunal pénal international pour Rwanda avait réunies. Mais malgré tout, la justice française a écarté les poursuites contre Tshombe Chaka. Nous n'oublions pas cela. Et nous n'oublions pas non plus qu'il y a d'autres criminels, comme le colonel Serbouga, comme Tanisha Simonamé et autres, qui sont en France. Les médecins Guamuki Eugène, comme Sostel Mouniemana, qui ont commis le génocide à Boutaré, qui ne sont pas poursuivis, et bien d'autres criminels. Mais nous souhaitons que d'autres dossiers puissent aussi parvenir au résultat au même chemin.
Jean Damascène Bizimana à Kigali. En plus de la sentence prononcée hier, rappelons qu'en mars 2014, la Cour d'assises de Paris avait déjà condamné le Rwandais Pascal Simbikangwa, ancien capitaine de la garde présidentielle rwandaise, à 25 ans de réclusion criminelle pour son rôle dans le génocide de 1994. Cour pénale internationale de La Haye, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et du leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé, notamment pour crimes contre l'humanité, a repris hier devant la CPI. Les juges ont décidé de ne plus retransmettre les audiences en direct sur l'Internet. 13 témoins ont déposé en 6 mois. Et toujours concernant la Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo est suspendu jusqu'au lundi 11 juillet. L'ancienne première dame ivoirienne jugée à Abidjan, également pour crime contre l'humanité, a eu un malaise vendredi dernier, accusée de négligence par la défense dans cette affaire. Le procureur général s'est défendu.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dernier jour de la tournée en Afrique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le chef de gouvernement de l'État hébreu a reçu le soutien de l'Éthiopie pour l'octroi à Israël d'un poste d'observateur auprès de l'Union africaine. Et puis le Premier ministre indien Narendra Modi entame aujourd'hui une tournée en Afrique. Il se rendra au Mozambique, en Afrique du Sud, en Tanzanie et au Kenya. Que représente cette visite dans les relations indo-africaines? John Lindon s'est entretenu avec Nyankoro Yesamake, ambassadeur du Mali à New Delhi.
C'est une visite qui est la bienvenue et il est temps que les actions de l'Inde atteignent le niveau de leur ambition. Les relations indo-africaines aujourd'hui sont en train de se rapprocher à un niveau d'engagement direct entre l'Inde et l'Afrique. Aujourd'hui, la présence du Premier ministre indien sur le continent nous rassure que l'esprit de la déclaration faite à New Delhi récemment en octobre 2015 a atteint un niveau d'exécution.
Alors, qu'est-ce que l'Inde peut offrir à l'Afrique?
Bon, l'Inde peut offrir à l'Afrique d'abord à différents niveaux. Au niveau bilatéral, les différents pays africains sont en train de tisser un partenariat stratégique avec l'Inde, surtout au niveau des échanges commerciaux. Au niveau régional aussi, il faut s'attendre à des lignes de crédit indiennes pour soutenir les entrepreneurs indiens à s'installer en Afrique, mais aussi au niveau africain dans les différentes plateformes multilatérales, notamment aux Nations Unies et sur d'autres plateformes, il y a des soutiens mutuels entre l'Inde et l'Afrique.
Nyankoro Yesamake, ambassadeur du Mali en Inde. L'actualité aux États-Unis maintenant, confrontée à des réactions indignées émanant des quatre coins du pays, les autorités américaines ont lancé mercredi une enquête fédérale sur l'homicide par balle en Louisiane d'un vendeur ambulant noir. Les précisions de Nathalie Barge.
Le principal organe chargé de l'enquête sera la division des droits civiques du ministère de la Justice, assistée du bureau du procureur de la Louisiane et du FBI, a annoncé John Bel Edwards, gouverneur de la Louisiane. La Maison-Blanche a proposé son aide, a indiqué Kip Holden, le maire de Baton Rouge, la ville où Alton Sterling vendait des CD sur un parking. À l'arrivée des policiers, Sterling était armé et l'altercation qui a suivi s'est conclue par la perte de sa vie, a déclaré Carl Dabadi, le chef de la police locale. Il s'exprimait après une conférence de presse des membres de la famille de M. Sterling qui ont demandé que justice soit faite. L'un des enfants a éclaté en sanglots tandis que sa mère, Kenyetta McMillan, parlait au micro. J'appelle quiconque avec assez de courage dans cette ville à aller arrêter ces deux agents. Si le système est le même pour tous, il doit l'être aussi pour eux, a déclaré Mme McMillan.
Toujours aux États-Unis, quelques heures à peine après l'annonce de l'enquête sur l'incident de Louisiane, une femme a filmé et diffusé en direct les derniers instants de son compagnon, un autre noir américain qui venait d'être blessé par balle mortellement par un policier dans le Minnesota. L'homme âgé de 32 ans et identifié par sa famille comme Philando Castile, un employé d'une cantine scolaire, est mort tard mercredi après un contrôle routier dans la ville de Falcon Heights. Et pour terminer, les États-Unis ont imposé hier leur première sanction individuelle contre le leader nord-coréen Kim Jong-un pour de graves violations des droits de l'homme allant d'exécutions extrajudiciaires à des actes de torture. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.